Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, les directeurs et ministres provinciaux de l'éducation préparent activement le terrain à quelques jours de la rentrée scolaire. C'est dans ce cadre qu'ils passent présentement au peigne fin, ici à Kinshasa, les enseignements de l'année scolaire écoulée, les conditions des réussites de la rentrée 2026-2027 et l'effectivité des réformes au niveau provincial. Nord Kivu, des milliers de déplacés vivent sans assistance humanitaire dans plusieurs villages des groupements Walowa, Luanda, dans les territoires de Walikale. Nombre d'entre eux ont fui depuis une semaine les combats entre l'AFC M23 et des groupes Wazalendo au nord et au sud Kivu. L'invité de ce journal est le directeur de la province éducationnelle Ituri 1, Yvon Mouké Abouassele, confirme que la rentrée scolaire est maintenue pour le 1er septembre prochain en Ituri, malgré la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Mesdames, Messieurs, bonjour. À quelques jours de la rentrée des classes, les directeurs et ministres provinciaux de l'éducation préparent activement le terrain. Réunis du 26 au 27 août 2026 à Kinshasa, ils passent au peigne fin les enseignements de l'année scolaire écoulée, les conditions de réussite de la rentrée 2026-2027, ainsi que l'effectivité des réformes au niveau provincial. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale explique que ces échanges visent à consolider et à pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire. Les propos de Raïssa Malou ont été recueillis par Blaise Nongala Mayanda.
Cette année doit aussi marquer une nouvelle étape dans les réformes que nous avons engagées. Nous allons les discuter ensemble, non pas seulement pour en connaître les orientations, mais pour voir concrètement comment elles vont se déployer dans vos provinces. Car nous entrons maintenant dans un moment important. Les réformes doivent commencer à se voir dans les écoles et à entrer dans les classes. La gratuité doit continuer à soutenir davantage les familles. Les nouveaux programmes doivent progressivement transformer les apprentissages. Les clubs de veille citoyenne doivent faire vivre concrètement la nouvelle citoyenneté. Les cantines doivent commencer à servir effectivement les enfants. Et nos outils de gestion doivent rendre les procédures plus simples et les données plus fiables. Mais toutes ces réformes reposent au quotidien sur les enseignants. Leur situation doit rester au cœur de nos préoccupations. Au niveau national, nous devons poursuivre les efforts engagés sur la paye, l'assainissement du fichier et la retraite, tout en veillant avec les banques et les autres agents payeurs à améliorer la qualité du service qui leur est rendu et à lever rapidement les difficultés qui peuvent l'être. Les provinces doivent également jouer leur part dans le cadre de leurs compétences et selon leurs possibilités.
Au Kasaï central, pendant ce temps, la rentrée scolaire risque d'être perturbée dans les territoires de Demba. Des enseignants menacent de ne pas reprendre les cours le 1er septembre prochain. Ils réclament le paiement de leur salaire du mois de juin 2026 par Caritas Kananga. Ces enseignants invitent les autorités compétentes à s'impliquer pour qu'une suite favorable leur soit accordée. Le point avec André Katendengala Mouloumé.
À quelques jours de la rentrée scolaire, l'inquiétude monte dans les territoires de Demba. Des enseignants disent ne pas avoir reçu leur salaire du mois de juin alors que le mois de juillet est déjà payé. Ils menacent de boycotter la reprise des cours prévue le 1er septembre. François Kongolo est président du syndicat des enseignants dans ces territoires.
Nous sommes déterminés de ne plus faire cette reprise si le gouvernement ne sera pas à mesure de régler la situation.
Une situation qui touche également les inspecteurs de l'éducation. Leur syndicat affirme qu'ils accusent 3 mois d'arriéré des salaires. À cela s'ajoutent les non-paiements de frais de fonctionnement, mais également le non-respect des engagements par le gouvernement central. Les inspecteurs dénoncent une situation qui, selon eux, compromet les bons fonctionnements des services de l'éducation dans la province.
De toutes les inspections des ministères de la RDC, l'inspection générale de l'éducation est la plus négligée, alors que le gouvernement prétend s'attendre à l'amélioration de la qualité de l'enseignement.
Dans les deux camps, un même interlocuteur est pointé du doigt. Caritas Développement Kananga, chargé du paiement. Contacté, ses responsables expliquent que le gouvernement n'a pas encore disponibilisé les fonds. Ils promettent de payer dès que possible. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Kapi.
Et puis le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, a dénoncé hier mercredi dans un communiqué les nominations de nouvelles autorités académiques par les mouvements armés AFC M23 RDF, dans les institutions supérieures et universitaires des zones sous occupation. Par la même occasion, les prix Nobel de la paix dénoncent la suspension des activités académiques décidées par le régime de Kinshasa. Le point avec vous, Alain Hirung.
Après la fermeture des aéroports, des banques, la restriction de l'aide humanitaire et des mouvements de la population, la fermeture des universités vient resserrer l'étau sur 12 millions de nos compatriotes du Nord et du Sud Kivu, abandonnés à leur triste sort. Briser aujourd'hui leur espoir de rêver, d'apprendre, de se former pour réaliser leurs aspirations et servir notre société est une ligne rouge inacceptable, a déclaré Denis Mukwege. Le prix Nobel appelle tous les acteurs étatique et non étatique impliqués dans la recherche d'une solution à cette crise, à faire de l'éducation des enfants congolais une priorité absolue dans les processus en cours. Il insiste sur la nécessité d'associer de manière significative les jeunes aux décisions qui les concernent directement. Denis Mukwege exige la fin de l'instrumentalisation et de l'ingérence militaire dans la gestion des établissements scolaires et universitaires, ainsi que la reprise sécurisée des cours sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones occupées. Pour lui, l'avenir de la jeunesse ne peut être réduit à une monnaie d'échange dans des calculs politiques ou territoriaux, ni considéré comme un simple dommage collatéral.
Au Nord Kivu, des milliers de déplacés vivent sans assistance humanitaire dans plusieurs villages du groupement Walo à Luanda, dans les territoires de Walikale. Nombre d'entre eux ont fui depuis une semaine les combats entre la FCM 23 et des groupes Wazalendo dans les territoires de Masisi au Nord Kivu et de Kale au Sud Kivu. Le député provincial de Walikale, Maurice Bikoy Mukongo, qui alerte sur leurs conditions difficiles, appelle à une assistance humanitaire urgente. Il est au micro de Marcel Papimukeba.
Ça fait une semaine maintenant que des combats opposent les M23 aux combattants Wazalendo du territoire de Masisi et du territoire de Kalehe dans les groupements dénommés Oufamandou 1er, Oufamandou 2 et Ziralo. Alors toute la population dans les groupements précités sont déversés dans les territoires de Walikale en groupement Walo à Luanda. Malheureusement, ces populations fuient sans aucune assistance. Voilà pourquoi je voudrais lancer un appel pathétique au gouvernement congolais, au gouvernement provincial du Nord Kivu et ses partenaires, de venir à rescousse ses compatriotes en détresse, parce que ça fait déjà une semaine qu'ils sont en train de croupir dans la misère. La majorité se trouve dans des familles d'accueil, ils dorment à même le sol pour le moment, ils sont très nombreux dans les villages de Busurungi, à Lukaraba, à Mianga, à Katambira, à Nyamimba et à Hombo. Ils n'ont pas à manger, on peut leur amener des bâches parce qu'ils n'ont pas de maison où passer la nuit, les gens souffrent.
Et dans la province du Maniema, les échauffourées ont fait plusieurs blessés et causé l'incendie de plusieurs maisons mardi dernier à Lembelembe, dans le territoire de Kailo. Selon plusieurs sources locales, ces violences seraient liées à un différend autour de l'exécution du cahier des charges d'une société minière chinoise avec les communautés affectées, mais également les divergences des coutumes entre la communauté Lega et Tetela. Le ministre provincial de l'Intérieur, Lawamo Selemani, confirme les faits et annonce des enquêtes pour identifier les auteurs de ces violences. Lawamo Selemani explique au micro de Florence Kizalunga.
Au niveau de Lembelembe, c'est dans le secteur d'Ambwe, territoire de Kailo. Il y a eu des échauffourées entre les praticiens de la coutume Kimbirikiti et Mboyo contre les habitants de la communauté Tetela. Le nœud du problème n'est pas encore connu, mais on nous parle que c'était des divergences autour de la coutume. Nous sommes en train de suivre la situation, mais on nous parle déjà qu'il y avait des dégâts, des incendies de maisons, des blessés, dont 7 sont déjà enregistrés du côté de la Tetela. Les éléments de l'ordre sont en train de s'assumer pour rétablir l'autorité de l'État. C'est pourquoi nous invitons d'abord la population au calme et à la cohabitation pacifique. Il n'y a personne qui a le pouvoir de discriminer un autre Congolais de ne pas vivre dans une entité quelconque. Nous savons que c'est un site minier où tout le monde a les droits d'accéder et de faire des recherches pour la survie de sa famille. Alors, quiconque sera retrouvé sur cette piste criminelle va répondre de ses actes. C'est comme ça que nous appelons la population au calme et les éléments de l'ordre sont déjà avertis et sont déjà alertés pour sécuriser la population et leurs biens.
75 kilomètres de la voirie urbaine de la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba seront réhabilités et modernisés en l'espace d'une année. Les travaux ont été lancés hier mercredi par le maire de Kolwezi, Jacques Massengo Kindele. L'autorité urbaine souligne que l'ambition est d'atteindre 200 kilomètres de la voirie urbaine sur l'ensemble de la ville de Kolwezi. Ces travaux, financés par le péage urbain, sont exécutés par l'entreprise LJET SARL. Le point avec Paul Mounanga.
Le coup d'envoi des travaux a été donné à la cité minière de Kapata au niveau du poste de péage urbain. La population s'est dit satisfaite pour le fait que l'argent issu du péage a été bien canalisé. Quelques Coloésiens s'expriment.
Nous adressons nos sincères remerciements à l'autorité, au maire de la ville, pour nous avoir accordé cette confiance.
Nous disons merci à l'autorité Jacques Massengo pour le péage qui est une bonne initiative et les résultats sont visibles. Le maire rassure la population que ce projet va affecter tous les quartiers de la ville de Kolwezi. Jacques Massengo Kindele souligne que les travaux vont s'effectuer dans l'intérêt de la population. Nous allons inviter les chefs de quartier, les cadres de base, la société civile, les coopératives, que chaque groupe nous dise quelles sont les routes prioritaires qui devraient être réhabilitées. Signalons que certains trajets seront bétonnés pour faciliter la circulation des camions poids lourds. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Et puis au Nord Kivu, les travaux d'aménagement de la piste de l'aérodrome de Kasalala à Lubero Centre, chef-lieu du territoire du même nom, ont été lancés mardi dernier. Longue de 1500 mètres, cette piste est restée inopérationnelle depuis plusieurs années. Réquisitionnée par le gouvernement provincial du Nord Kivu, elle doit faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et des médicaments dans une zone confrontée à l'insécurité et à l'épidémie à virus Ebola. Les détails avec Martial Papimoukeba.
Les travaux prévoient les nivellements, les rechargements, les compactages et l'assainissement des accotements. Dans un premier temps, la piste sera aménagée en terre bâtie. David Kamuha, directeur des cabinets du gouverneur du Nord Kivu, explique les raisons de cette réquisition.
Cette piste vient d'être réquisitionnée pour des besoins humanitaires et sanitaires. Vous savez que nous sommes sous menace Ebola et il était très important que cette piste soit aménagée, permettre l'arrivée des médicaments, mais également de l'aide humanitaire.
Bienvenue Bwende, directeur de la communication de l'Institut Congolais pour la conservation de la nature, qui finance et exécute les travaux, annonce et chantier de 6 mois.
Nous allons avoir cette piste qui sera la seule et la première dans cette zone et il y aura beaucoup de navettes en termes d'atterrissage et de décollage d'avions. Nous tablons sur 5 à 6 mois de travaux.
Les territoires de Lubero, touchés par l'activisme de plusieurs groupes armés et l'épidémie d'Ebola, accueillent des milliers de déplacés. Cette piste doit faciliter l'accès à l'aide humanitaire et sanitaire. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent dans le Congo central à la découverte d'un trésor caché des mangroves du Congo, les coquilles des palourdes, communément appelées biboati. Appréciées pour leur saveur et leur valeur nutritive, ces coquillages font vivre de nombreuses familles de Mwanda, notamment dans le village d'Nteva. Entre gastronomie, tradition de pêche et patrimoine local, Élise Kavira nous amène à la découverte de cette spécialité du littoral congolais.
À travers les biboati, c'est toute une histoire qui se raconte. Celle d'un fleuve, d'une mangrove et d'un peuple qui vit en harmonie avec son environnement. Très prisées dans les territoires des Mwanda, ces coquilles de palourdes sont récoltées à l'embouchure du fleuve Congo, là où le plus grand fleuve d'Afrique centrale rejoint l'océan Atlantique. Ces coquilles bivalves, proches de la palourde, vivent dans les zones vaseuses de la mangrove. Véritables délices locaux, ils sont appréciés pour leur saveur particulière et leur richesse en protéines. Ils constituent également une source importante de revenus pour de nombreuses familles. Bouillis, fumés ou cuisinés en sauce, les biboati occupent une place de choix dans l'alimentation des populations riveraines. Leur récolte se concentre notamment à Nteva, un village situé au cœur du parc marin des mangroves. Chaque jour, hommes et femmes fouillent les fonds vaseux à main nue pour récolter ces coquillages destinés à la consommation et à la vente. Aujourd'hui, cette spécialité ne se limite plus au village des pêcheurs de Mwanda. Les biboati sont désormais présents sur les marchés de plusieurs villes du Congo central où ils s'imposent comme l'une des spécialités emblématiques de la province. Depuis Matadi, Élise Kavira, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Cameroun, entre lassitude et impatience, c'est l'interminable attente du nouveau gouvernement. La même scène se reproduit désormais tous les jours. À 17h, à l'heure du journal radio, les Camerounais se massent autour des postes récepteurs dans l'espoir d'une annonce d'un nouveau gouvernement. Il y a 9 mois, le président Paul Biya avait promis la nomination du nouveau gouvernement dans les prochains jours. Mais 9 mois plus tard, l'équipe dirigée par le premier ministre Joseph Dion Nguté est toujours en poste, atteignant ainsi la longévité exceptionnelle de 7 ans. À Yaoundé, l'attente est presque devenue insoutenable.
L'invité.
Il s'agit du directeur de la province éducationnelle Ituri 1, Yvon Mouké Abouassélé, confirme que la rentrée scolaire est maintenue pour le 1er septembre prochain en Ituri, malgré la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Il assure également avoir reçu tous les kits nécessaires pour activer l'enseignement à distance, comme le stipule le gouvernement. Yvan Mouké Abassele répond aux questions de Blaise Dongala Mayanda.
Bonjour monsieur Yvan Mouké Abassele.
Bonjour monsieur le journaliste.
À quelques jours de la rentrée scolaire 2026-2027, quelles sont les dispositions prises au sein de votre province éducationnelle?
Merci beaucoup. La rentrée scolaire est effective à la date du 1er septembre, tel que les calendriers scolaires nous les demandent. À notre niveau, nous avons pris un certain nombre de mesures, un certain nombre de dispositions. D'abord, ce sont les réunions éventuelles qui se tiennent avec tous les chefs d'établissement. Ça, c'est au niveau des sous-divisions, parce que nous avons instruit les sous-provèdes pour qu'ils puissent inviter chacun en ce qui les concerne, les chefs d'établissement de son ressort, pour leur donner des informations, des instructions en rapport avec la rentrée scolaire. Ça, c'est un premier aspect. De deux, étant donné que la province de l'Ituri est une province qui est affectée par la maladie à virus Ebola, là-dessus, il y a aussi un certain nombre de mesures que nous avons prises. Notamment, il y a les kits de lavage des mains qui doivent être distribués dans les écoles. Il faudra vous dire que j'ai été en contact avec un partenaire, notamment ce village Espoir, qui m'a rassuré de la disponibilité des kits qui sont déjà là et qui doivent être commencés déjà à distribuer dans les écoles. Donc, ça veut dire que nous sommes vraiment prêts à faire démarrer les activités scolaires dès le 1er septembre.
Au niveau national, la ministre a annoncé la mise en place de l'enseignement à distance. Êtes-vous prêt de mettre en œuvre cette initiative?
C'est une initiative que nous avons saluée parce que pour nous, ça constituait une deuxième paire de manches, une deuxième piste de solution. Nous sommes prêts, d'ailleurs, à l'heure où je vous parlais, les cahiers d'exercice prévus pour ces écoles-là qui doivent, au besoin, être concernées par l'enseignement à distance sont déjà à notre possession. Dès que nous arrivons, nous les gardons de telle sorte que lorsque nous trouvons qu'il y a une école où il y a un cas de résurgence de cette maladie à virus Ebola, directement nous sommes obligés d'activer l'enseignement à distance pour cette école-là. Ce sont les dispositions qui sont déjà envisagées.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans la province éducationnelle Ituri 1?
Bon, les difficultés au départ, c'était, il faut dire, peut-être d'ordre sécuritaire, mais avec l'arrivée du nouveau gouverneur, en tout cas, on est en train de surmonter cette difficulté-là. Il y a aussi plusieurs parents, dont les enfants, donc plusieurs parents qui étaient en déplacement, mais ils sont en train de regagner progressivement leur milieu. Nous faisons croire que le démarrage aura normalement lieu et que les choses pourront se passer en bonne et due forme.
À quelques jours de la rentrée scolaire, avez-vous un message à lancer d'abord aux populations de l'Ituri et puis à toute la population congolaise en général qui vous suit sur les zones de Radio Okapi?
Le message à lancer, c'est d'abord m'adresser à la population de l'Ituri pour confirmer la reprise effective des activités scolaires à partir du 1er septembre, telle qu'indiquée par le calendrier, telle que demandée par les chefs de l'État, telle que réitérée par Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Nous sommes prêts. Tout ce que nous pouvons leur demander, c'est de pouvoir faire confiance aux autorités parce que le problème d'Ebola, c'est un problème réel que nous connaissons. Mais l'État n'a pas croisé les bras. Il y a des dispositions qui sont prises. Il y a des mesures sanitaires qui avaient été édictées par les ministères de la Santé. Et ces mesures-là sont d'application. Ces mesures-là, nous sommes en train de demander qu'on puisse les respecter pour que les choses se passent normalement. Donc mon message, c'est que les parents doivent faire confiance au gouvernement de la République, les parents doivent faire confiance à la Mineta, les parents doivent nous faire confiance en tant qu'hommes du terrain, parce que nous sommes prêts à soutenir toutes les actions qui sont recommandées au niveau national, de telle manière que les choses puissent bien se passer dans notre province éducationnelle. Il faut vous dire qu'il y a une série de réunions qui est en train de se tenir au niveau de pratiquement de toute notre province administrative, parce que j'avais annoncé la fois passée qu'il y a 150 instructeurs, conseillers d'enseignement et autres opérateurs pédagogiques qui avaient été recrutés pour être formés sur les mesures de prévention. Il y a les autorités sanitaires qui vont s'occuper de cette formation-là. On forme les chefs d'établissement. Eh bien, les chefs d'établissement vont à leur tour sensibiliser les enseignants, sensibiliser les élèves, sensibiliser les parents, de telle manière que chacun puisse prendre conscience par rapport à la maladie. Donc les dispositions sont en train d'être prises, comme je vous ai dit là. Pour nous, en tout cas, il n'y a aucune inquiétude.
Monsieur Yvan Mouké Abassele, nous vous disons merci.
Monsieur le journaliste, c'est à moi à vous dire grand merci.
C'était notre invité, le directeur de la province éducationnelle Ituri 1. Yvan Mouké Abassele répondait aux questions de Blaise Nongala Mayanda. C'est la fin de ce journal qui a été préparé par Alain Irung, Jean-Claude Siala, la mise en onde. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté.